Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le week-end de la Toussaint, les vacances scolaires sont terminées et comme nous vous l'annoncions la semaine passée, l'agenda musical est très rempli ce mois de novembre. Plusieurs événements musicaux ont eu lieu ces derniers jours et ça va continuer dans les jours à venir. Pour les commenter, les annoncer et les présenter, je suis entouré aujourd'hui d'Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Notre quatuor a le grand plaisir d'accueillir un duo, celui que forment Claude Scavazza et Jan Willem Janssen, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants. La saison 2019-2020 commence jeudi prochain, le 14 novembre, avec le concert de Richard Galliano, accompagné du Prague String Quintet à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous parlerons du programme de cette première soirée et de celles qui suivront avec nos deux invités en seconde partie d'émission. Tout de suite, c'est à l'actualité récente que nous allons nous intéresser avec Anne-Marie, Robert et Serge. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Pour commencer ce retour sur l'actualité musicale récente, je vais revenir sur les deux concerts qu'a donné le Toulouse Wind Orchestra les mercredis et jeudis de la semaine dernière à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous avions reçu deux de ses membres, Jean-Élie Eftekari et Aymeric Fournes, lors d'un précédent numéro, et nous avions évoqué avec eux ces concerts et les trois œuvres qui étaient au programme, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, Lontano de Michael Martin et Cuban Overture de George Gershwin. Parmi celles-ci, seule la deuxième était une pièce composée originellement pour ensemble avant. Ça a donc été la grande découverte de la soirée, une œuvre que l'Américain Michael Martin, jeune compositeur contemporain, a écrite il y a quelques années, en hommage à un de ses maîtres disparus. Alors je ne sais pas si elle a plu à l'ensemble du public, mais j'ai été touché personnellement par la variété de ses ambiances, tantôt feutrées et planantes, voire éthérées d'ailleurs, tantôt rythmées et énergiques, ce qui montre qu'on peut produire toutes sortes de nuances et de couleurs avec un ensemble avant, surtout lorsqu'il est constitué de musiciens de grande qualité et dirigé par un chef aussi fin et précis que Léo Margue. Je vais y revenir. Concernant les deux autres œuvres jouées par le TWO, nous avons eu droit, là encore, à des interprétations de très haut niveau. D'abord avec les tableaux d'une exposition qui sonnent très bien et prennent même une dimension supplémentaire dans un arrangement pour orchestre avant. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Et puis, pour la troisième et dernière œuvre du programme, on n'était pas dépaysé en entendant la musique de Gershwin, et donc cette Cuban Overture jouée par un orchestre de ce genre, idéal pour lui donner toute sa mesure, ou plutôt sa démesure festive. Il faut donc encore saluer la qualité générale du TWO, cette réunion de musiciens venus d'horizons divers, leur point commun à tous étant d'être passés, en tout cas pour la plupart, par le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, et d'avoir des attaches dans la Ville Rose, des instruments à vent dans la grande majorité bien sûr, cuivres et bois, mais aussi des violoncelles, des contrebasses, une harpe, un piano, sans oublier les percussions, donc 80 musiciens en tout, qui ont eu à peine 3 jours pour travailler tous ensemble. Inutile de dire que le travail de répétition et de mise en place a été très court et qu'on ne peut qu'être impressionné par le résultat. Ça en dit long encore une fois sur la qualité de ces musiciens, mais ça en dit long aussi sur l'excellence du chef qui les a dirigés lors de ces deux concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines, le jeune Léo Margue, 29 ans seulement, dont la précision, la justesse et les choix de direction ont fait l'admiration de tous, y compris des musiciens professionnels présents dans l'assistance. Un nom à retenir et peut-être un chef à revoir à Toulouse dans les années à venir. En plus, il semble avoir été très apprécié des membres du TWO, autant lors des séances de travail qu'en dehors. Bravo à lui donc et à ce magnifique orchestre qu'on aimerait entendre plus souvent dans notre région. Mais il faut avouer que ce n'est pas simple de réunir plusieurs fois par an 80 musiciens qui ont leurs propres carrières et engagements. Je salue au passage Jean-Élie Eftekhari et Guillaume Leblanc, les fondateurs et co-directeurs du TWO. J'ai dit que le concert s'était terminé par la festive Cuba l'ouverture de George Gershwin, mais comme vous vous en doutez, il y a bien sûr eu un bis à la grande joie du public de Saint-Pierre-des-Cuisines, la salle étant quasiment pleine le mercredi et complète le jeudi. Le bis qui a été joué, je doute que ça vous dise grand-chose. Si je vous dis à tous ceux qui est autour de cette table, Frevo San Fernando, Sergiosi peut-être.
Ah ben oui, c'est brésilien ça. Frevo, c'est une danse du nord-est brésilien, oui, oui, absolument.
Alors San Fernando, je ne sais pas, c'est un lieu.
Ah, ça, je
ne sais
pas.
Peut-être que c'est un lieu,
je n'en sais trop rien.
En tout cas, c'est un morceau du Spock Frevo Orchestra, une sorte de big band brésilien. Si je vous dis maintenant que son interprétation a donné lieu à une liesse générale, et à l'apparition d'une danseuse, une sorte de danseuse brésilienne, mais de corpulence et d'apparence un peu inattendue. Est-ce que ça vous donne envie d'écouter ?
Ah ben oui,
bien sûr. Ça c'est sûr.
Ah ben...
Et de voir, non ?
Alors voir, on peut pas. Mais je pense que vous seriez déçus, je pense, si vous voyez la danseuse en question. Bon, alors vos désirs sont des ordres. On écoute tout de suite Frevo San Fernando par le Toulouse Wind Orchestra. Frevo San Fernando, morceau du Spock Frevo Orchestra, arrangé par Jonas Muel, interprété par le Toulouse Wind Orchestra sous la direction de Léo Margue, avec Yves Moreux au saxophone solo. C'était mercredi et jeudi soir, la semaine dernière à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et je peux vous dire que tout le monde se trémoussait dans la salle, y compris les musiciens eux-mêmes, pendant que cette musique était jouée. Quant à la fameuse danseuse brésilienne, dont l'apparition et la performance chorégraphique a fait un tabac, je voulais aussi la saluer, enfin non, le saluer, puisqu'il s'agissait du clarinettiste Demis Delaty, que nous avions reçu l'an passé pour le concert 2018 du TWO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il a plus le gabarit d'un 3e ligne de rugby que celui d'une danseuse étoile. Je vous laisse imaginer à quoi il pouvait ressembler, vêtu tel une danseuse du carnaval de Rio. On referme la parenthèse Toulouse Wind Orchestra et on va maintenant se déplacer de Saint-Pierre-des-Cuisines à la Halle aux Grains, où l'Orchestre National du Capitole donnait samedi un de ses concerts du cycle Happy Hour. C'était à 18h, comme le veut la formule propre à cette série, et le programme était intitulé « La magie Fantasia ». Alors là, ce n'était pas le carnaval de Rio, mais tout de même, il y avait un petit air de fête lors de ce concert, notamment pour les enfants, y compris pour ceux que nous sommes tous un peu restés, enfin je l'espère. Anne-Marie et Serge devaient assister à ce programme, qu'est-ce qu'on y a entendu ?
On y a entendu des choses tout à fait accessibles pour un large public, placé sous le signe de la magie Fantasia. Ça faisait écho au fameux film Fantasia, avec des extraits d'œuvres célèbres comme la Toccata Henri de Bach, comme un extrait de Casse-Noisette, l'apprenti sorcier de Ducas. C'était tout à fait un concert pour les familles. C'est à 18h le samedi, c'était à guichet fermé, et les enfants, tout le monde, les parents étaient ravis d'écouter ce concert. Pour terminer, il y avait un extrait de la 5e symphonie de Beethoven. Et pour diriger tout ça, un chef d'orchestre dont on devrait reparler, qui est roumain, qui s'appelle Gabriel Bébé Celea. Je ne connaissais pas ce nom, mais il paraît qu'il est l'un des rares chefs roumains d'aujourd'hui qui a une envergure internationale maintenant. Et il a dirigé ça avec beaucoup de maîtrise. Et je crois que c'était un bon moment de musique sans se prendre la tête, comme on peut
et
dire.
Familial. Et récréatif.
Et récréatif. Il y avait La Nuit sur le Mont Chauve, bien sûr, L'Apprenti Sorcier, enfin des œuvres que.
Qu'on a tous dans l'oreille, hein. Oui. Même des gens qui ne connaissent pas forcément le nom des compositeurs. Oui.
Oui, alors simplement pour dire que c'est une très bonne idée d'amener des enfants, parce qu'en fait, on parle de L'Apprenti Sorcier, on parle de Une Nuit sur le Mont Chauve, en fait, ce sont des poèmes symphoniques, c'est-à-dire de la musique à programme, sur laquelle les enfants et les parents, c'est le devoir des parents aussi de le faire, peuvent mettre des images. Et je trouve que c'est très intéressant quand les enfants peuvent, parce que la musique autrement est abstraite, mais quand on a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, mettre des images même en dehors du dessin animé de Walt Disney, ben je trouve que ça peut accrocher un enfant et lui dire, bah, tiens, la musique, c'est ça, et puis après, il fera son cheminement.
Ah, surtout qu'à cet âge-là, l'imagination ne demande qu'à être stimulée, donc faut leur donner ces musiques très évocatrices. Alors Serge Chosy, vous avez présenté le concert
l'avant-veille. Concert à Aïda, donc, mais c'était le même programme.
Même programme.
Alors, moi, il y a une chose qui m'a vraiment fait beaucoup sourire, c'est la toccata et fugue en ré mineur dans une orchestration complètement kitsch de Léopold Sokowski.
Oui.
Alors là, on a l'impression d'entendre du Bruckner, du Mahler.
Mais c'est ça du dessin animé.
Du dessin animé. C'était, alors, pour le dessin animé, donc, c'était Léopold Sokowski qui dirigeait quand même l'orchestre Philadelphie.
Oui, il n'avait pas pris n'importe
quoi. Un dessin animé qui date de 1940.
Oui, hein. Oui.
Donc, c'est quand même extraordinaire. Et pour la première fois, avec un son en stéréophonie. C'est la première fois qu'on constatait ça au cinéma, donc c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir fabuleux de... Ah, j'étais pas pour la première, évidemment, mais...
Mais pas loin.
Pas loin. Donc, ouais. Et puis, ensuite, par contre... Pour le film, Sokowski avait réorchestré toutes les œuvres. Ce soir-là, ici à Toulouse, non. C'est simplement l'œuvre de Bach qui a été jouée dans la version de Sokowski, mais les autres, les extraits de Casse-Noisette, L'Apprenti Sorcier, donc la 6e pastorale et la Nuit sur le Mont Chauve, là, c'était les orchestrations originales. Je voudrais simplement préciser que le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven qui a terminé le concert n'est pas extrait du Fantasia de 1940, mais du remake de Fantasia. Qui date de l'an 2000. Donc, c'était intéressant de réunir
un peu plus proche de nous. Alors, il y a beaucoup de ces œuvres sont jouées assez régulièrement par l'Orchestre National du Capitole.
Bien sûr.
Depuis l'époque Plasson.
Oh là là, oui.
Il y en a quelques-unes dans le tas, là.
Bah oui, notamment L'Apprenti Sorcier, évidemment, La Nuit sur le Mont Chauve, les symphonies de Beethoven.
Casse-Noisette.
Et puis Casse-Noisette.
Bien sûr.
Casse-Noisette, là.
Notamment pour les concerts du Nouvel An, on l'entend presque chaque année.
Pour le ballet.
Et pour le ballet qui lui aussi a lieu presque chaque année au Théâtre du Capitole. Allez, il faut qu'on écoute une des œuvres qui ont été jouées samedi à la Halle au Grain. Et il n'y avait guère que l'embarras du choix pour vous en proposer une maintenant. Alors après la folie brésilienne du Toulouse Wind Orchestra, retour vers la douceur de l'enfance avec Casse-Noisette justement et sa fameuse valse des fleurs interprétée comme il se doit par l'Orchestre National du Capitole, ici dirigé par Tougan Sokiev. Thank you. La valse des fleurs, extrait célèbre s'il en est de Casse-Noisette, le non moins célèbre ballet de Tchaïkovski, une version de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Avant de terminer cette première partie d'émission, je vais redonner le micro à Serge Chosy qui tenait à nous faire part de ses impressions concernant la Nuit Acousmatique, ce spectacle musical et chorégraphique qui a été donné lundi à Audisud, un spectacle dont la musique était signée François Bayle et la chorégraphie Pierre Régal. Quand je parlais de vos impressions, Serge, je sais qu'elles ont été excellentes, mais il faut peut-être qu'on commence en rappelant qui est François Bayle.
Ah ben François Bayle est une icône hein, de la musique électroacoustique. Hein. C'est lui qui a créé à l'INAGRM, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, le groupe de recherche musicale, le fameux Acousmonium, qui est une espèce d'orchestre de haut-parleurs en quelque sorte. Il a horreur du mot haut-parleur d'ailleurs. Alors c'est amusant parce qu'il préfère le terme projecteur sonore, comme pour faire un lien entre la lumière et le son. Et donc François Bayle, bon, il est né en 1932, donc c'est
oui, un il y a 87
vétéran,
ans,
hein. Mais un monsieur d'une vitalité incroyable, hein, qui est aux manettes pendant l'exécution de ses œuvres. Alors, il faut quand même préciser que ce concert faisait partie du forum de création musicale qui s'appelle Bypass, et qui est géré, animé par le studio Éole. Le studio Éole, c'est Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedoux, qui sont les co-directeurs et qui sont en résidence
à Audisud.
À Audisud, bien entendu, et qui se consacrent à la musique actuelle, en particulier la musique électroacoustique, hein, à base d'informatique et d'électronique. Et vraiment, alors, François Bayle était là pour deux de ses œuvres. L'une qui date de 1972 et qui était la première œuvre donnée avec support chorégraphique magnifique de Pierre Régal, qui s'appelle Purgatoire et Paradis terrestre. Et comme le nom l'indique, c'est en fait une pièce inspirée par la Divine Comédie de Dante, hein, tout simplement. Et accompagnée par une chorégraphie très imaginative et très belle de Pierre Régal, chorégraphie exécutée par un groupe d'une vingtaine de jeunes danseurs de l'ISDAT, tout jeunes, hein, qui sont en cours d'études. Et vraiment, c'était impressionnant, aussi impressionnant par la lumière qu'a géré Christophe Bergon, qui est un habitué de ces spectacles-là.
Qui travaille avec eux et Jodlowski depuis longtemps.
Vraiment, moi ce qui m'a impressionné, c'est l'espèce de contrepoint qu'on pouvait voir, contrepoint musical entre la partie donc sonore, la partie chorégraphique et la partie lumière. Donc c'était très bien fait, sans redondance, mais bien fait. Une œuvre longue qui dure presque une heure et demie, hein, et le public était dans le silence,
concentré sur ce qui se passait, sur ce qu'il entendait.
Complètement. Et puis en deuxième partie, il s'agissait d'une création mondiale. C'était la dernière œuvre composée par François Bayle, qui s'appelle le projet Ouïr, scène de la vie de l'écoute. Donc c'est toute une philosophie sur le principe de l'écoute et de l'audition. C'était une sorte de symphonie en cinq mouvements avec des titres un peu sibyllins, hein, avec qui, comme, sans, vers, ou. Voilà les cinq titres des mouvements. Mais ça s'écoute vraiment comme une symphonie classique, entre guillemets, parce que à la place des notes, on a des bruits, évidemment, mais qui sont traités par thème, comme dans une symphonie classique, et avec un fil rouge qui se tisse un peu tout au long de l'œuvre, qui était l'élément liquide. Vraiment, on avait l'impression d'eau qui courait tout au long de l'œuvre. Vraiment, une œuvre intéressante, hein, avec des crescendo, comme une œuvre classique. Et donc, ça a été très apprécié, très applaudi par une salle qui était pas complète absolument, mais quand même bien remplie. Hein. Donc le public a bien réagi, a été très chaleureux avec François Bayle qui est venu saluer, avec une énergie même impressionnante.
Eh bien, il est important que vous puissiez dire tout le bien que vous avez pensé de la Nuit Acousmatique et de ses créateurs, François Bayle et Pierre Régal. Serge, c'est avec eux que nous concluons la première partie de ce numéro dédié à l'actualité musicale récente. Place maintenant à l'actualité à venir et plus particulièrement à celle des arts renaissants avec nos deux invités, Claude Scavazza et Jan Willem Janssen. Restez bien à notre écoute. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La suite et la seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jan Willem Janssen, président et directeur artistique des Arts Renaissants. Je l'annonçais au début de cette émission, la saison 2019-2020 commence jeudi prochain par le concert de l'accordéoniste Richard Galliano, accompagné du Prague String Quintet à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous allons parler de ce concert et des cinq autres qui vont suivre. Auparavant, je voudrais qu'on rappelle ce que sont les spécificités des arts renaissants, les principes sur lesquels vous bâtissez vos saisons. Et là, je vais m'adresser bien sûr à Monsieur le Président Claude Scavazza.
Tout d'abord, Eric, merci de nous permettre de présenter à vos auditeurs la 38e saison des Arts Renaissants, c'est dire si c'est une vieille institution. Fondée en 1978 par Xavier Darras, cette association, donc les Arts Renaissants, s'associe dès 1982 au Musée des Augustins pour créer le concept de concert au musée, concept alors inédit en France et repris ensuite par de nombreux musées, on peut citer le Louvre, Orsay ou Cluny. Depuis cette date, sous la direction artistique de Jean-Willem Janssen, claveciniste et organiste, cofondateur du département de musique ancienne du Conservatoire de Toulouse, et mené par une équipe de bénévoles passionnés, les Arts Renaissants organisent chaque année, de novembre à avril, 6 concerts mensuels avec une programmation conforme à notre spécificité, qui est en fait la conjonction de 3 partis pris. Le premier parti pris, c'est d'accueillir des artistes de renommée internationale, mais aussi les meilleurs artistes et ensembles de notre région, mais aussi de jeunes talents, des étoiles montantes de la musique classique. Je crois que nous avons une propension finalement à la détection précoce de jeunes talents. Je citerai parmi ceux-ci Patricia Petitbon, que nous réentendons cette année, qui en 2002 a donné son premier concert à Toulouse, et du non moins célèbre Philippe Jarouski, qui lui, en 2006, a aussi, pour la première fois, monté sur les planches des Arts Renaissants à Toulouse. Le deuxième parti pris, c'est de produire exclusivement des petites formations, de la musique de chambre et des récitals. Le troisième parti pris, enfin, c'est de choisir pour nos concerts des lieux patrimoniaux de Toulouse qui favorisent l'intimité entre le public et les artistes. Nos lieux de prédilection, je reviendrai en deux mots sur le Salon Rouge du Musée des Augustins. Mais nos lieux habituels et ceux de cette saison seront Saint-Exupère, l'église Saint-Exupère, Saint-Jérôme, Saint-Pierre-des-Cuisines. Et pour la première fois, nous allons tester le temple du Salin. Voilà. Tout d'abord consacré aux musiques anciennes, la programmation couvre maintenant un vaste répertoire classique et contemporain, avec toujours le même souci d'exigence et de qualité. Les Arts Renaissants, en quelques mots finalement et en résumé, c'est aujourd'hui plus de 250 concerts organisés depuis sa création, c'est plus de 200 abonnés fidèles et c'est plus de 2000 spectateurs par an. Le Salon Rouge, puisque je me dois de dire quelques mots.
Oui, parce que donc, la saison des Arts Renaissants est liée historiquement à celui emblématique, le Salon Rouge du Musée des Augustins, et il est en travaux depuis déjà 2 ou 3 ans.
Voilà.
Est-ce que ça va continuer comme ça encore jusqu'à la saison prochaine? C'est-à-dire que la saison prochaine, vous ne serez toujours pas revenu au Salon Rouge. Est-ce que vous allez y revenir d'ailleurs? Je pense que tous ceux qui suivent les Arts Renaissants se posent la question.
Nos abonnés nous en parlent régulièrement. Effectivement, hein, depuis, bon, il y a des travaux de rénovation, on en est d'ailleurs tout à fait heureux, des gros travaux de rénovation du musée. Et donc malheureusement, la conséquence, c'est que pour la 3e année consécutive, hein, nous ne pourrons pas être dans ce lieu et nous présenterons une saison que l'on appelle en balade dans un certain nombre d'autres lieux. Il est très probable que ce soit encore le cas la saison prochaine. On a même, pour le dire tout à fait clairement, on n'a pas tout à fait la garantie du retour. Il va y avoir une réorganisation de la scénographie des salles du musée et on peut espérer en tout cas que cette nouvelle scénographie ne sera pas un obstacle à la production de nos concerts mensuels. Je voudrais dire un mot sur un autre sujet qui nous anime, c'est finalement la volonté d'accueillir un public toujours plus jeune à nos concerts. Hein, voilà, le rajeunissement des publics de la musique classique est,
oui, c'est un sujet récurrent.
C'est un sujet très récurrent. Et puis aussi cette envie, cette volonté de favoriser une mixité sociale dans notre public. Hein. Alors pour cela, nous avons, à titre expérimental cette année, proposé pour la première fois un abonnement qu'on a appelé Découverte, hein, à un tarif exceptionnel qui est réservé aux moins de 26 ans, aux étudiants et aux demandeurs d'emploi. C'est un abonnement à 60€ pour les 6 concerts, 10€ le concert pour les concerts de la qualité dont on va parler.
Oui, je crois
que c'est
vaut la peine. Oui,
je crois que c'est donné. Crois. Voilà. Donc avant de passer à la présentation détaillée de cette saison, je voudrais dire 2 mots sur tous ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Bon, la mairie de Toulouse, hein, et Toulouse Métropole, soutien d'effectifs depuis le début, des partenaires industriels, d'entreprises ou des fondations comme Fonds Regard, Patrimoine SA et le Crédit Mutuel. Et puis souligner et saluer une équipe opérationnelle et des bénévoles qui s'investissent sans compter pour que cette belle histoire continue. Et bien sûr, nos fidèles abonnés et tout le public de nos concerts.
Voilà, et bien c'est dit et bien dit. On en vient à la programmation de la saison 2019-2020 des Arts Renaissants. Premier concert la semaine prochaine, jeudi 14 novembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et c'est donc Richard Galliano qui va ouvrir le bal avec son accordéon, mais pas pour jouer du musette quand même. Et il va être accompagné par le Prague String Quintet. Alors, je sais que ce n'est pas une première pour Galliano aux Arts Renaissants. En revanche, c'est peut-être la première fois qu'on le voit avec un ensemble à cordes de ce genre, Jan-Willem Janssen.
Oui, c'est la première fois que cet ensemble est invité. Il joue, je pense, à Toulouse et c'est sur souhait de Richard Galliano lui-même qu'il a proposé cet ensemble.
Voilà. Alors, ils ont déjà commencé à tourner, hein, ça ne va pas être la première à Toulouse pour eux, ensemble en tout cas. Le fait que ce soit Galliano qui ouvre, un grand nom donc, c'est un hasard ou c'était un vœu de votre part ?
Pour débuter la saison, c'est le pur hasard et on peut dire le heureux hasard parce que dans nos 6 concerts, souvent on essaye d'avoir un concert un peu ludique. Pas traditionnel, pas baroque, pas romantique, mais quelque chose de spécial. On avait invité le Sirba Octet, des musiciens fantastiques qui viennent de Paris avec les grands pupitres des orchestres de Paris. On avait invité les symphoniqueurs avec des ensembles vocaux un peu ludiques. Et cette année, c'est Richard Galliano qui ouvre donc la saison et c'est une belle ouverture, j'imagine.
Oui, parce qu'on va parler du programme, donc il y en a quand même du baroque au programme, pas seulement. Richard Galliano qui vient du jazz, et il se produit assez souvent dans les festivals de jazz de la région d'ailleurs, que ce soit Jazz en Commun ou Marciac. Alors autour de la table, je pense qu'il y en a qui l'ont vu jouer plus d'une fois. Serge, oui. Peut-être. Hein, qui...
Ah oui, il fait des transcriptions d'œuvres classiques, en plus des traditionnels jazz. Il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là et donc ça n'est absolument pas inhabituel de le retrouver et en compagnie d'un grand quintet à cordes, oui. Hein, quand même, le quintet à cordes de Prague, hein, ouais. Qui est un
grande formation ensemble magnifique. De chambre,
hein, donc on est vraiment tout heureux de l'entendre dans du Vivaldi, du Bach, du Mozart et puis évidemment du Piazzolla.
Et... Il y a du Granados oui, aussi. Et puis il y a du Galliano.
Tout de même, oui, du Galliano.
Alors, il faut dire une chose concernant Richard Galliano, c'est à ma connaissance, c'est le seul accordéoniste qui enregistre avec Deutsche Grammophon tout de même.
À ma connaissance aussi.
Je crois pas qu'il y en ait d'autres.
C'est pas.
Voilà. Alors oui, le programme, peut-être qu'on peut lire un mot. Donc on a parlé des compositeurs. Quelles œuvres vont être jouées parmi les plus célèbres ? Bon, il y aura Vivaldi, l'a enregistré il y a quelques années, un CD de transcription donc, des 4 saisons, déjà avec un quintet à cordes. Ce sera l'été, je crois, qui sera joué, le troisième mouvement.
C'est juste, c'est le troisième mouvement du deuxième concerto de Vivaldi. Mozart, c'est l'adagio du concerto pour clarinette.
Le fameux clarinette concerto.
De Bach, c'est le double concerto pour hautbois et violon qui sera joué. Granados, Galliano joue lui-même seul la Andaluza,
ah oui.
Une danse espagnole, après des compositions de lui et de Piazzolla.
Voilà, donc programme très varié tout de même, beaucoup de pièces, et parmi elles, il y en a une qui est chère au cœur des Toulousains, et je ne peux pas ne pas la diffuser, sinon je vais recevoir des courriers de protestation. C'est bien sûr Tango pour Claude. Alors, je pense que vous savez, c'est un tango rock, en fait, que Claude Nougaro avait commandé à Richard Galliano avant d'en faire la musique de sa chanson « Vie, violence ». Eh bien, voilà ce que ça donne lorsque l'accordéon de Richard Galliano est accompagné par un quintet à cordes.
Thank you.
Tango pour Claude, joué par Richard Galliano, accompagné par un quintet à cordes, c'est une des œuvres au programme du concert que donne l'accordéoniste avec le Prague String Quintet jeudi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines le 14 novembre à 20h30, au programme des pièces de Bach, Mozart, Vivaldi, Granados, Piazzolla et Richard Galliano lui-même. Concert suivant avec une autre formation prestigieuse, Il Giardino Armonico, mardi 10 décembre à l'église Saint-Jérôme, toujours à 20h30. C'est l'horaire de tous les concerts des arts renaissants. Alors voilà une formation dont on connaît bien le fondateur, le flûtiste Giovanni Antonini, parce qu'il est venu plusieurs fois diriger l'Orchestre National du Capitole. Là encore, je me tourne vers Serge Chosy.
Oui, absolument. Oui, oui, il vient très régulièrement diriger l'orchestre, alors qu'un orchestre, disons, romantique, entre guillemets.
Oui.
Et néanmoins, c'est quand même le fondateur du Giardino Armonico, qui est quand même un ensemble de musique baroque essentiellement, musique ancienne. Et donc, c'est un très grand chef. Et je sais que les musiciens de l'orchestre
apprécient beaucoup.
Très musicien. Et puis, il a un répertoire extraordinaire.
Enfin. Il a dirigé du Mozart avec eux.
Plus d'une fois.
Alors, il faut dire que Il Giardino Armonico existe quand même depuis 1985, donc c'est une formation ancienne maintenant. Je crois que ça a été une des premières à jouer sur instrument ancien.
Oui, je crois,
ça a été une des toutes premières. Et on peut dire que c'est sans doute parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, en tout cas pour interpréter les musiques baroques italiennes. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Willem?
Je pense que c'était les premières, en Italie en tout cas, qui ont fait cette approche de la musique ancienne en jouant sur des instruments originaux ou des copies. Je me rappelle très bien, ils sont venus la première fois parce que Xavier Daras, à ce moment-là, faisait des jurys, il avait beaucoup de contacts à l'étranger. Il revenait de Bruges, où il y avait un festival de musique ancienne. Il me dit, Willem, dis donc, il y a des Italiens qui sont forts.
Qui promettent.
Et il les a invités aussitôt, pour les arts renaissants après. Et ce qui est remarquable, c'est que Giovanni Antonini est un flûtiste à bec. Et il dirige du Schönberg, du Haydn, du Vivaldi, et il joue lui-même. Donc son intérêt, c'est d'une largeur d'esprit. Et comme disait Serge, les musiciens sont contents parce qu'il est vraiment engagé et impliqué de ce qu'il fait avec beaucoup de qualité. C'est un grand musicien.
Quelle que soit la musique qu'il dirige, hein, c'est ça.
Exactement.
Alors, il faut dire que Il Giardino Armonico, quand même, à leur palmarès, ils ont joué beaucoup avec Cecilia Bartoli. Christophe Coin, le violoncelliste, joue très souvent avec eux. Les Sœurs Labec, bon, qui sont installées en Italie depuis longtemps, ont joué beaucoup avec eux également. Donc, quand on regarde leur discographie, il y a vraiment des choses très, très prestigieuses. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous jouer, là, à Toulouse?
Ils vont faire un programme de musique italienne, bien sûr, avec la musique du 18e de Antonio Vivaldi, et aussi de la musique italienne du XVIIe siècle avec Albinoni, Merula et Le Grenzi. Et donc ces deux aspects de cette musique italienne, c'est un concert très varié et avec plein de changements de couleurs et de langage aussi.
Alors effectivement, donc il y aura plusieurs concertos d'Antonio Vivaldi, mais il y a des compositeurs, par exemple Giovanni Le Grenzi, personnellement je ne connaissais pas, j'avoue.
En Italie, c'est quand même un compositeur parmi d'autres, mais quelqu'un qui avait des choses à dire telles que Jean-Sébastien Bach l'a apprécié.
Eh bien, pour donner un aperçu du programme de ce concert du 10 décembre, je propose qu'on écoute une canzone de Tarquinio Merula, l'autre compositeur peut-être un peu moins connu du grand public que, évidemment, des gens comme Vivaldi ou Albinoni. Celle-ci est intitulée La Catarina et elle est interprétée, cela va de soi, par Il Giardino Armonico. Thank you. La Catarina, canzone de Tarquinio Merula, interprétée par Il Giardino Armonico avec Giovanni Antonini, son fondateur à la flûte. Ils seront en concert à l'église Saint-Jérôme mardi 10 décembre à 20h30 avec un très joli programme baroque italien. Le troisième concert de la saison va nous ramener en France, que ce soit pour les interprètes ou la majeure partie des compositeurs à son programme. Il a lieu jeudi 30 janvier à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines et il va être donné par la soprano Patricia Petitbon, accompagnée de la pianiste Suzanne Manoff. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un programme de mélodies essentiellement françaises. Concernant Patricia Petitbon, retour aux arts renaissants, il y a longtemps qu'elle ne s'était pas produite ou...
Après, c'était en 2004.
Oui. 2004, donc elle est revenue assez rapidement. Oui. Mais je pense qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas vue en revanche.
Et non. Depuis, elle n'est pas revenue.
Voilà, elle n'était pas revenue. Alors, comme Robert Pénavert a pris la parole, un petit mot sur ce que vous pensez de la voix de Patricia Petitbon, vous, le grand spécialiste des voix.
Alors, en fait, on s'aperçoit depuis quelques années un virage dans la carrière de Patricia Petitbon. Je regardais avant de venir ses prochains engagements et ses dernières productions scéniques. Donc, il y a un grand engagement pour elle à venir. C'est Blanche de la Force à la Scala de Milan. Et maintenant, elle chante Manon, Traviata, les quatre rôles des contes d'Hoffmann, c'est-à-dire Olympia, Giulietta, Antonia et Stella. Voilà, donc elle est en train de donner peut-être un autre virage à sa voix, parce qu'elle arrive maintenant, bon, moi non plus, je ne veux pas dire ce que je n'ai pas, pas à dire.
Mais... On peut le dire, elle arrive à la cinquantaine. Voilà,
donc...
Elle ne les fait pas.
La maturité.
À la maturité, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut s'exprimer. Merci. Anne-Marie, la voix de la sagesse.
C'est vrai aussi, bon, voilà. Parlons sérieusement, mais c'est vrai. Un âge où les chanteuses, voilà, la voix change, voilà. On va vers d'autres rôles.
Et puis, il y a ça, puis il y a peut-être le fait que, bon, peut-être qu'elle veut changer de répertoire,
oui,
qu'elle trouve plus amusant de chanter Traviata qu'Ippolite Arisi, moi je ne sais pas, c'est pas impossible.
On parlait d'Élode des Carmélites, jusqu'alors elle faisait Constance, c'était Constance.
Voilà, rôle, maintenant c'est Blanche.
Elle va aborder Blanche de la Flandre.
Et pas n'importe où.
Mais non.
Voilà, donc c'est une voix, effectivement, son médium s'est considérablement élargi. Le grave résonne beaucoup plus qu'il y a 12 ans ou 15 ans, bien évidemment. L'aigu est vraiment très péremptoire aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, elle se lance dans des héroïnes romantiques, mais bon, Manon, Traviata, c'est pas rien. Mais en même temps, elle n'oublie pas ses ascendances de soprano colorature aiguë, et donc elle peut chanter aussi dans les contes d'Hoffmann. Elle est aussi bien dans Giulietta, dans Antonia, que dans Olympia.
Et dans la mélodie, puisque là, on va parler de mélodie. Là.
Voilà.
Vous l'avez entendu, vous, dans ce registre ?
Bien sûr. Enfin, je ne l'ai pas entendu hier, dans la mélodie, mais les derniers souvenirs que j'en ai, c'était, je pense, aux arts renaissants. Donc, ça date, effectivement, puisque ça date il y a 15 ans. Et dans la mélodie, je ne l'ai pas re-entendu depuis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans la mélodie, mais j'ai remarqué que, quand même, son programme, c'était Barber, c'était aussi...
Oui, Granados.
C'était Francis Poulenc.
Poulenc, Debussy,
voilà,
Forêt.
C'était Enrique Granados. Bon, il faut voir, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la voix, comme son répertoire, a considérablement changé depuis.
Donc, on l'a dit, le programme Forêt, Debussy, Poulenc, Granados, Barber, en revanche, on ne sait pas quelles œuvres vont être chantées.
Je trouve que c'est bien de donner une carte blanche, en quelque sorte, et c'est souvent pour des musiciens angoissant et pas très bien de décider un an ou deux ans d'avance ce qu'on aura envie et ce qu'on se sent bien dans un répertoire. Même des changements de programme, ça ne me dérange pas du tout. Donc, c'est, comme vous dites, Eric, Barber, Debussy, Forêt, Poulenc et Granados qui sont annoncés.
Donc, ça devrait être de toute façon un très joli programme. Bon, il faut dire qu'elle avait enregistré un CD de mélodie française, déjà avec Suzanne Manoff, qui va l'accompagner le 30 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, il y a 4 ou 5 ans, qui est intitulé La Belle Excentrique, ça lui allait bien. Alors, a priori, il n'y a pas de pièce de Reynaldo Hahn lors du concert du 30 janvier, mais j'ai choisi de vous faire écouter Patricia Petitbon dans une interprétation de ce petit bijou qui est la mélodie à Chloris, parce qu'elle la chante de très jolie manière, et elle est accompagnée au piano par sa complice Suzanne Manoff. À Chloris, très belle mélodie de Reynaldo Hahn sur un poème de Théophile Deviau chanté par Patricia Petitbon, accompagné au piano par Suzanne Manoff. Vous les retrouverez toutes les deux jeudi 30 janvier à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. La suite, ça va se passer au Temple du Salin, et ça sera une première pour les arts renaissants, le mercredi 26 février, et là, c'est une jeune formation qui va s'y produire. Tic Tactus, avec un programme titré Mad Songs. J'avoue ne pas connaître cette formation qui s'est constituée autour de la mezzo Lucille Richardot. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, à la fois la formation et la chanteuse?
Je sais que c'est une formation qui est actuellement en résidence au conservatoire de Vincennes. Donc c'est vraiment une formation importante. Et Lucille Richardot, pardon, était déjà venue en 2011 avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et elle avait chanté dans des œuvres de Zelenka, je me souviens. C'est une magnifique mezzo-soprano. Donc vraiment, et je crois qu'à l'origine, cet ensemble était constitué de Lucille Richardot et deux musiciens simplement.
Oui, trois, exact, exact.
Et ensuite, ça s'est agrandi donc, jusqu'à devenir cet ensemble Tic Tactus que l'on verra donc le 26 février.
Alors, le programme, c'est Mad Songs. Peut-être que Yann Goulem peut nous en parler, parce que là, il s'agit de Purcell. Mais il n'y a pas que du Purcell, hein, donc, ce programme. C'est du baroque anglais, 17e, mais avec d'autres compositeurs que le célèbre Henry Purcell.
Oui, Mad, c'est mauvais. Bad, mauvais, fou.
Fou, chanson folle, chanson de folie. C'est une chanson de folie, Mad Songs.
C'est un programme très intéressant, surtout pour la musique, mais aussi par l'expression théâtrale que les deux chanteurs font sur scène.
Vous voulez dire c'est mise en scène, quoi.
Il y a une petite vraiment mise en scène, et puis aussi, elle s'exprime très bien, Lucille Richardot, dans une interview lors d'un concert à Bruges où ils ont présenté ce programme. Elle dit bien que, à la fois dans l'expression musicale, ça va du sifflement, du murmurement, jusqu'à la crie. Mais elle dit qu'il ne faut jamais perdre le contrôle parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la barrière en tant qu'interprète. C'est d'ailleurs nécessaire pour tout interprète musical ou artiste. On peut le faire, si vous voulez, dans une répétition ou bien dans le travail. On peut aller au-delà pour savoir quelle est la limite, mais le moment où on est en présentation, c'est extrêmement contrôlé. J'ai vu des extraits et ça m'a entièrement convaincu de l'actualité de ce programme. D'autant plus aussi que parmi les musiciens, il y a un claveciniste qui s'est ajouté après et qui est leur claveciniste attitré et qui a pendant un certain temps enseigné la basse continue dans le département de musique ancienne à Toulouse. Il s'appelle Brice Sailly, quelqu'un de très 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 bien. Et d'ailleurs, c'est, entre collègues, c'est le plus facile de contacter des stars ou les stars montantes, des solistes
oui.
qui sont pas atteignables sinon par les musiciens. Et c'est lui qui a fait les messages. Et c'est ainsi que...
Que ça s'est fait, donc le lien avec le Tic Tactus et donc la venue dans la saison des Arts Renaissants. Donc programme baroque anglais avec du Henry Purcell, d'où le titre, et des airs de John Blow, John Copperario et Thomas Robinson. C'est vraiment un concert découverte à tout point de vue, je pense que ce soit pour les musiciens que pour les compositeurs. Et ce sera donc le mercredi 26 février à 20h30 au Temple du Salin. Et c'est une autre formation française qui va donner le concert suivant, l'avant-dernier de la saison, mercredi 25 mars à l'église Saint Exupère. Et là, c'est l'ensemble Correspondance, avec lequel d'ailleurs Lucille Richardot a chanté. Elle a collaboré quelques fois avec eux. Il a été fondé et il est dirigé par Sébastien Dossé. Je crois qu'on peut dire que c'est désormais une formation qui compte dans le milieu baroque en France, presque au même titre aujourd'hui que des ensembles comme Pygmalion ou d'autres.
C'est un ensemble qui est lui aussi en résidence, mais cette fois au Théâtre de Caen. Oui, c'est un ensemble important maintenant, hein, qui se produit un peu partout. Hein.
Alors le programme là, c'est simple, ce n'est que du Marc-Antoine Charpentier. Qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? Parce qu'il y a plusieurs œuvres au programme, certaines très connues de Charpentier, d'autres un peu moins.
Il y a plusieurs motets, il y a le Miserere des Jésuites, il y a une messe pour les Trépasses, un Stabat Mater, il y a les très très belles litanies de la Vierge. Et ce concert se situe dans la Semaine Sainte et est donc tout à fait adapté à une année liturgique. Et ce concert aura lieu dans l'église Saint-Exupère.
Donc motets, messe pour les Trépassés, Stabat Mater, litanie de la Vierge, O Vos Omnes. Un petit extrait du programme Tout Charpentier du 25 mars prochain, les litanies de la Vierge, interprété par l'ensemble Correspondance sous la direction de Sébastien Dossé. Litanie de la Vierge de Marc-Antoine Charpentier, une version de l'ensemble Correspondance dirigée par son fondateur Sébastien Dossé. Il sera en concert à l'église Saint-Exupère le mercredi 25 mars à 20h30. Et enfin, ultime rendez-vous de la saison, jeudi 23 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec une musicienne et un orchestre bien connu dans notre région, Yasuko Bouvard et les Passions de Montauban, dirigés bien sûr par leur chef et fondateur Jean-Marc Andrieux. J'allais dire qu'on ne les présente plus, mais on va quand même le faire, d'autant plus que vous connaissez Yasuko Bouvard depuis très longtemps, Yann Willem Janssen, ne serait-ce que parce qu'elle pratique l'orgue et le clavecin comme vous, et parce qu'elle est, elle a été votre collègue au Conservatoire rayonnement régional de Toulouse.
Avec beaucoup de plaisir, on a fait ensemble un travail, elle continue toujours pour la classe de clavecin. En plus, elle enseigne aussi le fortepiano qu'elle jouera au concert dans deux concertos de Mozart, les numéros 20 et 21.
Le 20 et le 21, donc au piano forte, dont elle est une vraie spécialiste. Alors je vois Serge Chauzic les pouces levés en me disant quelle musicienne et quel piano forte.
Et quel instrument! Elle a commandé l'instrument, elle a attendu 10 ans pour l'avoir, et vraiment, cet instrument pour jouer Mozart, c'est l'idéal. On l'a déjà entendu dans certaines pièces de Mozart, notamment, elle a joué des sonates pour violon et pianoforte, et enregistré, et c'est une merveille. C'est un instrument d'une beauté, d'une richesse de couleurs, qui est tellement bien adapté à l'œuvre de Mozart, que pour ma part, je me réjouis d'assister à ce concert avec deux des grands concertos de Mozart, avec enfin l'instrument qui convient pour jouer ces deux.
Mais d'ailleurs, à la base, ils avaient été écrits pour pianoforte. Donc voilà, oui, on va les entendre vraiment dans la version et avec l'instrument d'origine,
oui.
Ce qui est quand même rare. Hein,
oui.
Et ce qui est rare avec une aussi bonne musicienne. Et on est nous aussi ravis vraiment d'avoir les passions dans cette programmation. Il nous reste quelques instants avant de conclure cette émission. Je vais en faire cadeau à Robert Pénavert parce qu'il semble que ce samedi 9 novembre s'annonce exceptionnel pour les amateurs d'opéra. Dites-nous tout, Robert.
Voilà, alors je vous préviens, ça va être très difficile parce que vous ne pourrez pas tout faire, c'est absolument exceptionnel, mais c'est comme ça. Alors, à l'ABC, à 15h, retransmission exhibition exceptionnelle des Indes Galantes depuis l'Opéra de Paris, avec la fine fleur du chant français, Sabine de Vielle, Jody de Vos, Julie Fuchs, Florence Sampé, Alexandre Duhamel, Stanislas Barbera, Mathias Vidal, etc., dirigé par Leonardo Garcia Alarcón, dans une mise en scène qui a mis la critique parisienne sur les dents, mais qui a été follement applaudie par le public.
Toutes les personnes qui sont là ont trouvé ça formidable.
On trouvait ça formidable, avec peut-être c'est le fait que, vous savez, bon, les Indes Galantes, c'est un opéra ballet, c'est un chef-d'œuvre, mais opéra ballet, donc il y a pas mal de morceaux dansés, et le chorégraphe, c'est Bintou Dembélé, dont il vous dire qu'il n'a pas fait du Marius Petipa, donc c'est plutôt à base de hip-hop, de rap,
de danse urbaine, comme on dit maintenant.
De danse urbaine, mais voilà, le public était aux anges, et vraiment, voir le public d'Opéra Bastille debout tous les soirs, en train d'applaudir, d'ovationner le spectacle, ben tant pis pour nos confrères parisiens, voilà.
Oui, en tout cas, bon, ça c'est à ne pas rater, je crois.
Alors ça, c'est à ne pas rater, vraiment, à ne pas rater.
Samedi à 15h.
Samedi après-midi,
15h. Cinéma L'ABC de Toulouse.
Voilà, et les places sont à 15 euros.
En plus, voilà, vraiment très accessible.
Il faut le dire quand même, il faut le dire.
C'est même presque donné pour la qualité de ce spectacle.
Alors, le soir, dans la foulée, ça je pense qu'on peut faire les deux. Il y a un récital de la soprano britannique Jessica Pratt qui chante. Alors là, elle ne vient pas avec des mélodies, hein. Elle vient avec les grands airs de Donizetti et de Bellini, c'est sa spécialité, hein. Alors là, pour 20 euros, vous allez passer une heure et demie de folie, colorature et belle cantiste.
Avec un programme extrêmement copieux et varié. Hein.
Oui, absolument, oui.
Mais que des grands airs.
Il n'y a que des grands airs d'opéra.
C'est au théâtre du Capitole.
C'est au théâtre du Capitole, oui. Pardon. Oui. Alors ensuite, mais là, par contre, vous ne pouvez pas faire les deux, puisqu'en même temps, il y aura une retransmission, à cette fois en direct, du Metropolitan Opera de New York, de Madame Butterfly, avec notre dernière Butterfly, oui, et qui avait été la Butterfly.
Et la grande spécialiste du rôle aujourd'hui.
La grande spécialiste du rôle, voilà. C'est pas pour rien que le Metropolitan l'affiche pour la retransmission. Mais alors, il faut souligner qu'en plus, c'est dans la mise en scène du regretté Minghella, grand cinéaste. Et c'est sa seule mise en scène d'opéra.
Oui.
Puisque le malheureux est décédé en 2008, il avait à peine 54 ans. Alors, par contre, là, il faut choisir entre Jessica Pratt et Madame Butterfly.
C'est à la même heure, c'était à la même heure.
C'est à la même heure, oui, voilà. Alors non, Butterfly, c'est à 19h, mais c'est long.
Oui, voilà. C'est,
voilà,
c'est
parce
fini,
que c'est en direct, donc il y a deux entractes. Ouais. Mais la mise en scène est somptueuse, mais vraiment, on regrette beaucoup que Minghella n'ait pas pu faire d'autres.
Voilà. Faire des choix.
Donc, mais bon courage pour choisir.
Merci beaucoup, Robert, pour cette présentation de ce samedi exceptionnel pour les amateurs d'opéra à Toulouse. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie mes camarades Anne-Marie Chouchan, Serge Chosy et Robert Penavert d'avoir participé à mes côtés. Tous mes remerciements également à nos deux invités, Claude Scavazza et Jan-Willem Janssen, d'être passés nous voir et nous avoir présenté la programmation de la saison 2019-2020 des Arts Renaissants qui commence jeudi prochain, 14 novembre, avec le concert que donne à 20h30 l'accordéoniste Richard Galliano et le Prague String Quintet à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec du Bach, du Mozart, du Vivaldi, du Granados, du Piazzolla et du Galliano au programme. Il y aura ensuite 5 autres concerts jusqu'à fin avril. Vous pouvez d'ores et déjà, c'est même fortement conseillé, réserver vos places sur le site www.art-renaissant.fr où vous trouverez la billetterie en ligne et le détail des programmes. Notez d'autre part le nouveau concert Happy Hour que donne l'Orchestre National du Capitole ce samedi 9 novembre à 18h à la Lograin avec Scheherazade et la symphonie Opus 35 de Rimsky-Korsakov. Les renseignements et réservations sont disponibles sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce même samedi 9 novembre, la soprano Jessica Pratt, comme l'a dit Robert, donne un récital à 20h au Théâtre du Capitole où elle va chanter de nombreux airs d'opéra, des leaders et des mélodies. Un très beau programme dont vous trouverez le détail et pour lequel vous pouvez réserver vos places en vous connectant au site www.théâtreducapitole.fr. Et donc toujours ce samedi 9 novembre, les passionnés d'opéra auront bien noté que le cinéma L'ABC de Toulouse retransmet à 15h Les Indes Galantes, l'opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, depuis l'Opéra National de Paris dans la mise en scène de Christophe Cogitor. C'est vraiment à découvrir, alors profitez de l'occasion. Vous pouvez vous informer et réserver vos places sur le site www.abc-toulouse.fr. Et pour finir, je signale les concerts que donne le chœur Les Éléments à Audi-Sud mardi 12 novembre à 20h30 avec la petite messe solennelle de Rossini et samedi 16 novembre à 18h à la chapelle des Carmélites pour son programme Dreams. Renseignements et réservations sur le site www.les-éléments.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est est diffusé les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci pour votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.